Alors, Boker Tov, les Koulam, Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov, Eliaonavi, Zahour la Tov, tous les Tov. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage. Alors, je vais transgresser à notre habitude chronologique. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais me servir de ce personnage comme étant un annonceur, un annonciateur. Puisqu'on va parler de quelqu'un pour annoncer quelqu'un d'autre, puisque dès la semaine prochaine, nous allons commencer Be'ezrat Hashem, notre masterpiece, qui va nous amener pour au moins deux cours, puisque la semaine prochaine, on commencera à parler du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook dans l'enseignement et l'histoire de la Kabbalah. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'un de ses élèves. Mais je vous arrête tout de suite. On ne va pas parler de ces trois grands élèves, puisque ça, on en reparlera après avoir évoqué le Rav Kook. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui ni du Rav Kharlap, ni du Rav Tzvi Yehuda, son fils, ni du Rav Anazir. Par contre, on va parler d'un autre personnage. Un personnage que vous ne connaissez pas, un personnage que vous êtes à mille lieues de vous imaginer, puisque aujourd'hui, oui, mesdames et messieurs, Gvirotai verabotai, comme on dit chez nous. Je vous présente un homme qui est non seulement un rabbin, mais qu'il est aussi un cow-boy. Aujourd'hui, nous parlons du rabbin cow-boy. Aujourd'hui, les amis, notre cours, nous parlons de Lucky Luke. Voilà. Et c'est presque pas une blague. C'est presque pas une blague. Et là, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Je vous montre simplement une petite image. Elle est très moche. Elle est très vieille. Mais nous allons parler de l'homme sur le cheval. Alors, de qui parle-t-on, les amis? Lucky Luke. Ou alors, de son vrai nom officiel, Harav Yishayahu Shapira. Rav Yishayahu Shapira, eh bien, c'est un personnage incroyable parce que complètement, mais alors complètement inconnu au bataillon. Et s'il y a bien un homme qu'on devrait connaître plus, eh bien, c'est lui. Alors, les amis, rentrons dans l'univers d'un homme qui avait tout pour devenir l'archétype, le modèle du rabbi chassidique. Et qui décidera de devenir le rabbin cow-boy. De qui on parle? Rabbi Yishayahu Shapira. Les amis, il naît en Pologne en 1891, dans le petit village de Krosik. Et là-bas, eh bien, très jeune, à l'âge de 1 an, il perd son père et il sera éduqué par son grand-père. Il sera éduqué par son grand-père qui est le rabbi de Khantchin. Arebe Michanchin, c'est Chassidut qui vient directement du José de Lublin, de Rabbi Elimelech de Lijansk, Noam Elimelech, et il est censé, à la mort de son grand-père, puisque son père est déjà parti, il est censé prendre la succession du Rebbe de Chanchin et de devenir le prochain Admour. Vous savez comment ça marche dans le monde chassidique? C'est vraiment véritablement des cours chassidiques à l'ancienne, à la médiévale. Et donc, eh bien, finalement, son avenir est déjà tout tracé. Sauf que, à l'âge de 23 ans, il décide qu'il ne deviendra pas Admour. À l'âge de 23 ans, il prend une décision qui va changer sa vie, notre vie. Il décide que c'est son petit frère qui deviendra le nouveau Admour. Alors attention, vous connaissez peut-être le petit frère, puisque le petit frère va devenir Arebe, alors pas de Khantchin, parce qu'il change de localité et il va habiter dans une petite bourgade qui est comment dire, dans la périphérie de Varsovie. Il deviendra le petit frère. Rabbi Kalminus Kalman Shapira, à Rebbe mi Pirsetna. Pirsetna, à 30 km comme ça de Varsovie, c'est lui qui devient le prochain Admour. Mais alors attendez, alors c'est qui notre Yeshayahu Shapira? Alors s'il ne devient pas Admour, eh bien à 23 ans, il décide, après avoir puisé toute la Torah de la Chassidoute du Chosé de Lublin et du Noam Elimelech. Alors on a déjà parlé du Noam Elimelech, c'est une Torah Tassod absolument incroyable. Ça, on a déjà évoqué. Donc, il a puisé tout cela, il a récupéré tout cet enseignement. Et à 23 ans, pour lui, l'accomplissement de la Torah Tassod, et ça ne sera pas un sod pour vous, bah, c'est de partir en Israël. Donc, à 23 ans, il décide, il renonce de devenir Admour et il part en 1914 en Eretz Israël. Bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il va rester à peine quelques mois. Et il est obligé de repartir, mis à la porte par les Ottomans, à cause de la Première Guerre mondiale qui éclate. Comme il est polonais, eh bien, les Polonais sont pour le moment les ennemis. Ils sont avec la Russie et ils sont donc les ennemis de l'Empire ottoman. Et donc, tous les ressortissants russes sont obligés de repartir en Europe et il repart. Il repart. Et lorsqu'il arrive, il revient en Pologne, la seule chose qu'il pense à faire, c'est de revenir. Pendant 3 ans, il tisse des contacts avec tout ce qu'on peut compter de sionistes en Europe pour que finalement, en 1917, il a 26 ans et il fait partie des quatre qui vont créer les bases et la réalisation de ce qu'on appelle à Mizrahi. Avec le Rav Reines, évidemment, le Mizrahi, la branche religieuse de l'organisation sioniste mondiale. Et ça y est, en 1920, il revient en Israël. Zéhou. Il revient en Israël, et alors là, ben, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il arrive en Israël, il est déjà connu dans le monde. Les amis, je reviens à notre histoire. En 1920, donc, il remonte en Israël, ça y est, et là, il peut rester. Et il va tout de suite être nommé, puisque maintenant qu'il a des contacts partout, il est nommé Rosh Machleket HaAliyah BaMizrahi. Mais attendez, il n'est pas rabbin? Ah oui, non, mais vous n'avez pas compris. Pour Rabbi Yeshayahu Shapira, l'action et l'étude ne doivent jamais être séparées. Il y a, nous dit Rabbi Yeshayahu Shapira, dans une de ses lettres qu'il envoie à son frère, oui, parce que son frère, il est plus dans la tradition du rabbi, pas du rabbi de Lubavitch, hein, mais du rabbi dans toutes ses expressions. Où il est dans son bureau, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, il étudie la Torah, il enseigne la Torah. Il y a une lettre de son frère, donc Rabbi Yeshayahu Shapira, qui lui dit que une Torah qui ne sert pas à agir, eh bien, c'est pas une Torah. Et il va lui écrire quelque chose d'absolument évident pour nous, ça nous paraît clair, mais c'est une révolution. Où il va nous dire, il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours. Nous avons une mitzvah, ve'agid tabo yomam valayla, tous les jours, et le jour et la nuit. Mais nous dit Rabbi Yeshayahu Shapira, mais il n'y a pas de mitzvah d'étudier toute la journée et toute la nuit. Donc tu dois étudier la Torah tous les jours, et tu dois aussi ben, faire des choses dans ce monde. Et le chidouche de Rabbi Yeshayahu Shapira, et ça on y reviendra tout à l'heure, c'est que pour lui, si la Torah est Kodesh, le Kodesh a besoin d'une plateforme sur laquelle il peut s'exprimer. Comment s'appelle la plateforme sur laquelle le Kodesh peut s'exprimer? Eh bien, ça s'appelle le Chol. Eh oui! Le mot chol vient du verbe lahoul. Lahoul, ça veut dire résider. En d'autres termes, le kodesh, le chol est l'endroit où le kodesh peut résider. Donc, de dire Rabbi Yeshayahu Shapira, il ne peut pas avoir de kodesh s'il n'y a pas de chol qui va lui permettre de résider. Et donc, pour lui, construire le chol, c'est Torah. En tout cas, donc en 1920, on a dit qu'il devient le Rosh Machleket Ha'Aliyah BaMizrahi. Et à un moment donné, alors on y reviendra, mais à un moment donné, il y a une grande machloket à l'intérieur du Mizrahi, de savoir est-ce que le Mizrahi doit être une espèce de garde-fou religieux dans l'organisation sioniste mondiale, ne pas trop se mêler, mais de faire des petites remarques lorsque l'organisation est trop anti-religieuse, ou alors est-ce qu'il est temps d'avoir une part active dans l'organisation sioniste mondiale? Et il va donc faire partie de ceux qui sont les Meyasdei Hapoel HaMizrahi. C'est-à-dire qu'on ne se satisfait plus seulement de la théorie, mais nous voulons avoir une part active dans la construction de ce pays. Et donc, il est l'un des fondateurs et dirigeants de Tnouat Torah Veavoda. C'est complètement dans l'idéologie du Rav. En 1929, il a 38 ans. Et il va faire un switch absolument incroyable dans son idéologie, puisqu'il va décider de s'enrôler dans la Haganah. Pourquoi je dis que c'est un switch énorme dans sa vie? Eh bien, pour une raison très simple, qu'on va peut-être revenir dessus plus tard, mais si je vous disais que notre Rabbi Yeshayahu Shapira, eh bien, a créé en 1926 une organisation qui s'appelle Brit Shalom. Alors, mais c'est Brit Shalom, c'est l'ancêtre de Shalom Arshav. Ouais, c'est bizarre de se dire Shalom Arshav avec un chapeau, une barbe, des péotes jusque par terre. Nachon. Mais l'ancêtre de Shalom Arshav, c'était des religieux. Et ils s'opposent à la création des Gdoudim HaIvrim, par exemple, à l'époque. Ils s'opposent à une révolte armée, tant contre les Anglais que contre les Arabes. Pour lui, c'est le Shalom. Mais voyant comment les choses évoluent, voyant comment la réalité le rattrape, en 1929, suite au pogrom de Chevron, eh bien, il décide de s'enrôler dans la Haganah. On est vraiment ambiance Simchat Torah, où depuis Simchat Torah, il y a plein de gens qui étaient pour une gauche extrême qui en sont un petit peu revenus. C'est-à-dire, en 1933, parce que on a dit qu'il aimait bosser, on va lui proposer, lui supplier, lui quémander en 1933 de devenir le Menahel, le directeur de la banque Zerubbabel. Et là, vous êtes en train de me dire, mais quel rapport? Non, je veux dire, c'est pas un banquier. Nahon, il n'est pas du tout banquier, mais il sait gérer, il sait diriger. Et le directeur de la banque n'a pas besoin d'avoir des qualités financières, il a besoin d'avoir des qualités de gestionnaire. Et donc, eh bien, on lui demande, supplie, quémande, et il accepte. Et il devient le Menahel de la banque Zorobabel. Mais c'est à la fin de sa vie, en 1942, qu'il réalise son rêve. Son rêve, c'est de prendre son cheval, de travailler son lopin de terre, et de devenir le cow-boy qu'il a toujours rêvé d'être. Et en 1942, il devient agriculteur cow-boy à Kfar Pines. Il s'éteindra à l'âge de 54 ans en 1945 et sera enterré au Mont des Oliviers. Le créateur du Brit Shalom n'était-il pas Martin Buber? Oui, il n'était pas tout seul. Dans toutes ces grandes organisations, ils sont toujours comme ça, 4-5, à la création. Le problème, c'est qu'après, l'histoire ne retient que ceux qu'on a envie de retenir. C'est comme on avait parlé il y a quelques semaines, 2-3 semaines, je crois, on a parlé du Rav Yaakov Meir, à Rishon LeZion. Eh bien, lorsque vous parlez à des gens de qui est celui qui a ressuscité la langue hébraïque, Bah, tout le monde pense Eliezer Ben Yehuda. Parce que c'est ce que l'histoire, excusez-moi du peu, mais un petit peu non religieuse, a voulu mettre en avant. Et personne ne se rappelle que celui qui a engagé Eliezer Ben Yehuda pour faire son travail, c'était le Rav Yaakov Meir qui était l'instigateur du projet. Donc, mais ça a l'air, l'histoire retient celle qu'elle a envie de retenir. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de Rabbi Ishaïe Shapira, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quelle est sa Torah, quel est son enseignement, comment rentre-t-il dans la chochelette, dans la, comment dire, la chaîne de transmission de la Torah, de la Kabbalah. Mais les amis, en 1924, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il est déjà en Israël et son idéologie est bien mise en place, mais il y a un problème. Il l'écrit. La chose qui fait que ça ne marche pas, la résurrection, c'est que chacun veut tirer la couverture à soi. Mais pas forcément pour de mauvaises raisons. Parce que chacun est persuadé que son derrière est le meilleur. Des fois, il y a des problèmes de kavod et de kesef. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, hier, Shabbat, on m'a raconté, un des anciens de ma communauté m'a raconté qu'il y a très longtemps, il y a eu une. Il y avait à Jérusalem, il n'y avait que. Y a, dans la vieille ville, les seuls qui faisaient la shrita, c'était les chassidés Satmer. Et il y a un moment donné où les chassidim de Belz, ils ont décidé qu'eux aussi, ils faisaient une shrita. Maintenant, que les choses soient claires. Kesef, kesef. Et donc, il m'a raconté qu'il y avait dans les rues de Jérusalem des placards, des panneaux énormes plus hauts que moi, où il y avait marqué dans toutes les rues, il y avait une rue comme ça, une rue comme ça. Il y avait marqué en grand, faites attention, Satmer mange des produits pas cachers, faut pas aller chez eux. Et de l'autre côté, il y avait une autre rue, il y avait marqué, faites attention, à Belz, on mange pas cachers, non, n'achetez pas chez eux. Bon, mais ça, c'était une histoire d'argent. Uniquement d'argent. Mais des fois, il y a vraiment des questions que. Je pense que mon chemin est celui qui va réussir et je ne me rends pas compte qu'en étant tout seul, eh ben, je n'y arrive pas. En 1924, il voit deux amis de la famille, le Admour de Yablona et le Admour de Kojnitz. Donc deux rabbanim chassidim très en vue à l'époque, qui tous les deux, avec leur chassidim, montent en Israël, Kol HaKavod, et tous les deux décident de créer un Yishuv. De créer une communauté en Israël, voilà, qui va réussir. Le rabbi de Yablona va créer Nachalat Yaakov, Be'emek Israël, alors que le rabbi de Kozmitz va créer le yishuv de Avodat Israël sur les fleuves, sur les flancs du Kishon, de Nachal Kishon, à Haïfa. Et le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ne marchent. Pourquoi ils ne marchent pas? Mais parce qu'ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de force de travail. Et le problème, c'est que dans une réalité comme ça, où tu dois tout créer de A à Z, tu as besoin de beaucoup de bras. Et quand tu n'as pas assez de bras, tu n'as pas assez à manger, ça ne marche pas. Ah bon, vous allez me dire, bah, c'est pas de problème, faites venir d'autres gens. Ah ben non. Parce que nous, on n'accepte que les chassidim de Yablona. Ou alors les chassidim de Kojnitz. Et vu que bah, la majorité, ils ne sont pas revenus en Israël, ils sont restés en Pologne, on n'a pas autre chose. Arrive Rabbi Ishaïe Shapira et va faire une rencontre entre Emek Israël et Haïfa avec les deux rabbis. Comment il réussit à les faire se réunir? Il dit, je viens au nom de mon grand-père. Ah, tu viens au nom du rabbi de Khadjin? Ah, nous on le connaissait, pas de problème. Et donc, en portant le nom de je suis le petit-fils d'eux, il les fait se rencontrer. Et une fois qu'il les fait se rencontrer, il leur dit, mais les gars, on va pas tourner autour du pot. Toi, ça marche pas. Si vous continuez comme ça, dans un an, vous êtes soit tous morts, soit vous êtes tous repartis. Et toi, dans 6 mois. Alors, venez, on arrête les bêtises. Et on se met ensemble. Faites un grand village ensemble Et deux synagogues. Vous voulez continuer à prier séparément parce que il y en a un qui prie comme ça et l'autre comme ça, alors qu'en vrai, vous priez pareil, mais bon, tant pis. Faites deux synagogues. Mais au moins pour tout le reste, vous serez ensemble. Eh bien, vous savez quoi? Ça marche. Et ça marche, et ils décident de créer ensemble un nouveau village qui va très bien marcher, qui s'appelle Kfar Chassidim. Et Kfar Chassidim, c'est donc la réalisation du rabbi qu'on appelle maintenant Ha'Admour HaChalutz, le rabbin cow-boy, le rabbin pionnier. Tov, Besaider! Alors, bon, maintenant qu'on a commencé à dire ça, qu'est-ce qu'il pense, notre Admour HaChalutz? Qu'est-ce qu'il pense de l'Alia? Est-ce que pour lui, c'est, vous croyez que c'est important de venir en Israël? De participer à cela? Eh bien, écrit le Admour. Betsar ou begagouim, anu niskarim bayamim elle bechagim ubamoadim הוסרו ההבדלים והסייגים, כולם היו מתקרבים קרבת אחים ומתמזגים לחטיבה אחת, לחוויה ישראלית אחת. אפשר לקוות שעתה עכשיו התחיל שוב עלייה לרגל בהמון. יתקבצנו שוב, ידונו ויגיעו למצוא פתרונים לכל השאלות המסובכות המתעוררות בחיי היהדות. וכאן יהיו נרקמים שוב. חוטי האחדות הישראלית שהתפוררה באלפני שנות החורבן. רבותיי, וואלה une קריאה לאחדות. Je traduis. Il dit, je me rappelle avec douleur, avec tristesse et avec énormément de l'engouement, les journées où on a lu dans la Torah, dans les fêtes, dans les journées de Simcha qu'on avait à l'époque du Beth Amikdash, où à ce moment-là, tout Israël venez dans la maison de Dieu. Et je me rappelle, tel que je l'ai lu, que cette union du peuple juif était fantastique. Il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus de séparation. On était tous ensemble, les Khativa Achat. Et on ne peut qu'espérer que maintenant, ce soit le moment de nous réunir tous de nouveau et de réussir à reconstruire notre société, notre unité israélite qui s'est détériorée durant 2000 ans d'exil. Kriya nichetzet pour la Ahdout Israël. Alors très bien, très bien, très bien. Il va, à partir des années 25, 26, il va commencer à se balader. Et il arpente la terre d'Israël parce qu'il veut s'imprégner de tous les endroits de la terre d'Israël. Pour lui, chaque endroit en Israël représente une autre mida au niveau des sphirotes, et donc il veut s'imprégner. Il commence son voyage dans le Shomron. Il va à Sébastia. Et là, oh là là, quand il dit Kshanu mashkifim al nof hayafe shemisaviv, mitbaharim lanu kama psukim batanach. שהיו עד כה בלתי ברורים, כאילו קמו לפנינו לתחיית דברי ישעיהו. Quand il dit, quand on se balade en Israël, eh bien enfin on peut comprendre les versets du Tanakh. Tous les commentateurs qui ont écrit sur le Tanakh qui n'étaient pas en Israël n'ont pas compris la réalité des versets. Et il dit, lorsque le prophète Ishayahu nous dit, « Oy, ateret geout sikore Ephraim » וציץ נובל צבי תפארתו אשר על ראש גי שמנים על לומי יין. Il dit, lorsque tu te balades dans les ruelles du Shomron, הדברים אינם זקוקים כאן פירוש. הם חרוטים במציאות, בטבע, ביפי הנוף שמסביב. T'as pas besoin d'explication, t'as pas besoin de commentaire, tu comprends Ishayahu parce que tu vois avec ses yeux. Et tu vois que, eh bien, il y a des kfanim, il y a des plants d'olivier partout. Tu comprends pourquoi il a dit ça? הנה למטה הגיא היפה, הפורה והמבורך, גיא השמנים, ובראשו מסתרעת הגבעה המפוארה שעליה הייתה בנויה עיר המלוכה שאותה כינה הנביא עטרת גאות סיקורי אפרים. Il dit, je vois la colline sur laquelle il y avait la ville de Shomron. Bien, je peux comprendre maintenant, quand nous dit le prophète, Ateret Geout Shikore Ephraim, parce qu'elle était telle une couronne sur la colline. Maintenant, tout est clair. Et puis, il continue ses voyages et il arrive à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il arrive au Harazetim. Il arrive כשירדתי במורד הר הצופים בדרכי ירושלים. נדמה היה לי שתנ"ך חי ותלמוד חי. כל שיח וכל צמח וקוץ שנתקלתי בהם על כל מדרך כף רגל נדמו לי כפסוקים חיים מהתנ"ך ומהתלמוד. והרגשתי שנפתחו לפניי שערי לעולם חדש שהיה סגור ומסוגר עד היום הזה. Olam Hatzomeach. Les amis, on n'y est tellement pas. Mais enfin, combien de fois on a entendu des rabbins qui te disent « Mais j'ai marché depuis le mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. » Et chaque centimètre, chaque fleur, chaque arbre, chaque... J'ai pas étudié le Tanakh, j'ai vécu le Tanakh. Combien de rabbins se sont occupés du Tzomeach, de la faune et de la flore surtout, de la flore d'Eretz Israël pour se rattacher eh bien, à ce qui se passe. On n'arrête pas de parler dans l'histoire de la Kabbalah que la connexion avec la terre d'Israël était fondamentale. Eh bien lui, c'est pas des mots, quoi. Il écrit, lorsqu'il va se balader à Naharaïm, Naharaïm, Mizrach HaYarden, là-haut, dans le nord, lorsqu'il nous dit זכיתי לראות בקיום החזון הנהדר גם בעבר בעבר הירדן, סליחה, מזרחה, את גשר שעל הירדן. Parce que là, là-bas, il y avait la grande centrale de traitement des eaux. Il dit, c'est incroyable. Là-bas, אני ניתק מן ההוויה אל העבר הרחוק, אל ימי הילדות של עמנו, גבול אוג מלך הבשן, בני ראובן וגד. עכשיו יהודים עמלים לתקוע לנו יתד נאמן במקום הזה. Il dit, mais c'est fantastique! Je suis à l'endroit où les tribus de Réhouven et Gad ont été les premières à prendre position en terre d'Israël. Et là, je vois comment leurs descendants, nous, le peuple juif, nous sommes en train de reconstruire des centrales, des trucs fantastiques. Yishuv Hadash Umsudar, Malet Noa Vechaim, Kanye Amerkaz Energia Veleor Bishvil Kol Eretz Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vit le passé et il comprend le présent. Il dit, je me suis baladé à Shfaram. Et à Shfaram, alors que je me rappelais des dernières nidoudim du Sanhédrin, je comprenais que c'était à nous de reconstruire le nouveau Sanhédrin. Il va arriver à Kfar Gidon. À Kfar Gidon, il dit à Limoudim Chaim Befi Ayeladim. Là, il rencontre une école et il va voir des enfants. Ah, ils ne sont pas religieux. Mais il dit, mais les psoukim, ils sont vivants dans leur bouche, dans leurs actions. Quand ils arrivent au verset de Yeshayahu, Hashirana li didi shirat dodi le karmo, hayeladim mevaharim beatzmam akol mina metziut, vayazkehu vesaklehu vayitaehu shorek, beavodot ele em nitkalim kimat yom yom. Il dit, ce travail agricole dont le prophète parle, les jeunes générations le font tous les jours. C'est fantastique. Hein? Moi je suis émerveillé de ça. Hein? Il te dit, lorsque le prof, il dit, Vekotz Vedardar Tatsmi Achlach, vous savez, dans la Klala de Bereshit, ou lorsque Dieu dit la terre, elle va faire sortir Kotz Vedardar. Are Asrot Etzbaot Munafot Terev le Tzad Achalon à la Kotz. Il dit, mais t'as besoin de Rashi? Regarde les mains de ces enfants qui doivent arracher les ronces et les épines pour pouvoir planter les fruits qu'ils vont pouvoir manger. Ils n'ont pas besoin du Pérouch Rashi. Ils savent ce que ça veut dire, Kotz Vedardar Tatzmiach Lach. Puis il arrive à Hebron. Et lorsqu'il arrive à Hebron, Rabotai, il est devant sa réalité. Il n'y a pas de plus grand moment de tribour entre le passé et le futur. Il arrive mais, devant la Knissa de Maharat HaMakpela. Il est évidemment arrêté à la septième marche. Il ne peut pas avancer plus que cela. Et il pousse une tzéaka, tzéaka énorme. Aliti el kivrot akedoshim. Il dit incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis chez papy et mamie. Et pourtant, je ne peux pas y être touché. Je suis là, mais je suis loin. Tzaka. Tzaka gedola. Admatai. Hebron aretroka. Les amis, comme on l'a dit tout à l'heure, le Admour Achalout va avoir une correspondance avec un autre grand rabbin polonais, un rabbin de Varsovie qui s'appelait le Rav Yitzhak Nissenbaum. Et le Rav Yitzhak Nissenbaum, bon, il va devenir connu pendant la guerre, il va devenir connu durant la Shoah, lorsqu'il essaiera d'enseigner à toute sa communauté l'importance de Kiddush HaChaim, au-delà de Kiddush HaShem, durant la Shoah. Mais avant la Shoah, eh bien, il y a une correspondance entre le Rav Nissenbaum et le Rav Shapira pour comprendre, comme on a dit tout à l'heure, que Kodesh et Chol sont interdépendants et donc ils vont créer ensemble une école. Une école qui va avoir des petits. Puisqu'il y a plein d'écoles comme ça en Europe qui s'appellent comme ça. L'école Tarkemoni. Mazé Tarkemoni, c'est cette volonté de faire l'union du Kodesh et du Chol. Son frère, le rabbi de Pirsetna, lui est complètement opposé à cela. Peut-être est-il opposé à cela parce qu'il est en Pologne, à côté de Varsovie, et qu'il a peur que si les gens commencent à étudier les sciences profanes, eh bien, à ce moment-là, ils vont se perdre, ils vont aller s'assimiler. Peut-être. Mais le fait est que lui, le Admour Achalout, pour lui, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de débat. C'est évident que si on veut pouvoir transmettre une véritable Torah, une véritable grandeur, on a besoin des deux. Alors, je vous ai dit... Opa. L'ordinateur a décidé de faire ce qu'il veut. Voilà, tout va bien. Bekitsour, on a dit, il est dans l'action. Il est dans l'action, pour lui, la reconstruction est essentielle. Et pour ça, eh bien, il va tout simplement être un des fervents défenseurs de ce que le Mizrahi ne veut pas. Il s'oppose ouvertement au Mizrahi, et ça va être là d'ailleurs l'un des points qui vont le faire vriller et partir du Mizrahi pour créer Apoel HaMizrahi. Le Mizrahi, c'est des vieux. Le Mizrahi, c'est des vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui, à l'ancienne, tu sais, il faut absolument que les anciens avec des longues barbes soient ceux qui disent comment il faut faire, parce que nous, on sait, parce que nous, on est les gens qui ont la sagesse. Mais pour l'Admour Achalout, ceux qui comprennent beaucoup plus, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Regardez ce qu'il écrit. Il écrit pour être un des plus grands piliers, soutien de l'organisation du Bnei Akiva. Et il dit « Ein ha-yeled rotze le-imatze tamid tachat ol ha-orim ve-amorim. L'enfant ne veut pas toujours être sous la tutelle de ses parents ou de ses professeurs. Il a besoin, l'enfant, d'une heure de liberté. Il doit avoir cette heure-là, ce temps-là, où il n'a pas de personne au-dessus de lui, où il est que avec des gens comme lui. Rakt nuat noar datit yechola lif'ol beze ba'atzlacha. On a besoin de créer un mouvement de jeunesse religieux qui pourra lui donner ce qu'il a besoin. Tnuat noar, tnuat penimit shel chaverut. Peulata eina al yede tochacha umusar, ki im al yede yetzirat avaya chaye yaldut venoar teorim. C'est des jeunes qui sont gérés par des jeunes entre jeunes. Mais oui, ils inventent des jeux débiles, mais c'est pas grave. Ils vont être aussi ceux qui vont développer la Emouna, la Yahadout, mais pas en ayant des grandes conférences, mais en ayant une réalité concrète d'activités, de jeux éducatifs qui vont être mis en place par des gens qui les comprennent et qui vivent comme eux. On n'a jamais vu une ode au mouvement de jeunesse aussi belle que ce texte écrit par Rabbi Ishayahu Shapira. Il a une dent, pour ne pas dire une mâchoire entière, contre une partie du mainstream rabbinique, de ceux qui connaissent tellement bien, ils étaient tous à la table de son grand-père. Il a une dent grosse, grosse, grosse comme ça, contre Agudat Israël. Ah là là. Ah là là. Agudat Israël, la Hanaga Haredit en Europe, il est très 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 virulent. Il écrit Imorot HaGeoula, Mitgalim Arbe Pegimot Velikuim. Avec les lumières de la Geoula, eh bien, se dévoilent beaucoup de problématiques. Makom Barosh, Meharat Perud Vesinat Rinam, Ose Banu Shemot. Il y a un endroit qui est à la tête du Péroud, de la séparation dans le peuple juif. Mitnaelet, c'est qui le patron du Péroud dans le peuple juif? Et Sinat Rinam, c'est terrible ce qu'il écrit. Il dit Mitnaelet al yede Agudat Israël milchemet perud be'avodat ha'yishuv habinyan ve'hageula. Il dit les dirigeants de Agudat Israël, on parle de toute la Hanaga Haredit d'Europe. Il dit c'est eux qui sont les responsables de cette attaque terrible, de ce perud qui est créé entre ceux qui veulent créer l'État d'Israël, enfin du moins la résurrection sioniste, et ceux qui restent en Europe. Le Péroud, il est fait par ses rabbins. Inivdeled me'al ke'al Israël. Les dirigeants de Agudat Israël sont détachés de la réalité du peuple juif. Sheinam nimnim al chavereha. Eina veliba. Netunim rak le'ele ha'mistofefim tachat digla. Ils ne s'occupent que de gens qui sont les membres de la Agudat Israël. Ele ha'me'avim be'enea et kol klal Israël. Ils pensent que tout le peuple juif, c'est uniquement les gens qui sont dans Agudat Israël. Verak le tovatam mufnim gam avodatam ha'yishuvit. Et si jamais il y a des gens de la Agudat Israël qui veulent partir en Israël, alors ils ne vont les aider que eux. Ichoteret tachat peulat haklal almenat leibanot michurbano. Vechol ze beshem dat Moshe veYisrael. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de détruire l'ambiance du klal. Et ils font ça en plus au nom de la Torah de Moshe? Non mais ça va pas. D'un autre côté, il ne va pas dire que le monde chiloni est exempt de toute problématique. Il dit qu'il faut absolument leur faire bien comprendre au monde chiloni qui est en train de construire Eretz Israël que c'est im velo aliad. Que nous ne devons pas les laisser dire qu'il y a les religieux, Mizrahi, tout ça, et il y a nous. On doit être ensemble pour la reconstruction. Si ils ont leur place, et nous pensons qu'ils ont leur place, nous devons leur faire accepter que nous avons la nôtre également. Et pour lui, la seule façon de faire réussir la réalisation du rêve sioniste, c'est en étant mechoubarim, la tradition, la shorashim. Il écrit Bedor haAcharon, Itrila haTzionut leAfrid ben haDvekim veLekatzetz et haShorashim haAtikim. Mekor nishmat Israël, Nahazaba klipa haChitzonit shel leumiut chilonit. HaShabbat neekeret, Mishpacha, Tzniut, Nimusim, bakol nitret haMasoret. כשאין כל ערכי האומה יונקים ממקור אחד, לא תיכון האחדות ואנו כראויים לעשרות כרעים. הדרך היחידה להצלחתנו היא רק בתשובה שלמה. תשובה לעצמנו, ליהדות, לתורה, למקור ישראל ולקדוש ישראל. Nous ne pourrons réussir à construire notre pays qu'en étant connectés à notre à notre essence, à notre judaïsme, à notre Torah, à la source du peuple juif et en étant connecté à Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit, il va créer la tnoua de Torah ve'avoda parce que pour lui, il est temps d'agir et de ne plus seulement être mashpia. Ça suffit d'être quelqu'un qui va donner une impulsion. Non, non, il faut faire les choses. Il rencontrera en Eretz Israël, évidemment, le Rav Kook. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va servir de tremplin au cours qu'on va faire. Alors, il va, comme j'ai dit, il va rencontrer le Rav Kook. Et cette rencontre va lui changer sa vie. Il va faire de lui tout de suite son Rav. Et lorsqu'il rencontre le Rav Kook à Yafo, il écrit, après avoir passé quelques temps avec lui, le livre Eretz Chefetz. Mazé Eretz Chefetz, c'est un livre magnifique qui rassemble toutes les paroles du Rav Kook sur la terre d'Israël. Tout ce que le Rav Kook a pu écrire sur la terre d'Israël, toutes les phrases magnifiques que le Rav Kook a écrites sur la terre d'Israël sont rassemblées dans le livre Eretz Chefetz. Les amis, finalement, à la fin de sa vie, il réalisera, comme on a dit, son rêve d'antan. On arrive à la fin de sa vie, il part, comme on l'a dit, devenir cow-boy à Kfar Pinetz en 1942, et les trois dernières années de sa vie, il sera tellement, tellement à sa place, tellement heureux, tellement dans son élément, qu'il deviendra aussi, et contre sa volonté, à Admour. Il a tellement fui le fait d'être un Admour chassidique, mais qu'est-ce que tu veux? Chasse le naturel, il revient au galop. Et du haut de son cow-boy dans la journée, tous les vendredis soirs, se réunissent chez lui des dizaines et des dizaines de personnes pour venir écouter le tish du rabbin cow-boy. Et il devient, dans la bouche de chacun, celui que tout le monde appelle maintenant Admour Achalutz. Dans ses derniers jours, il rêve de l'avenir. Il rêve de la création d'un État. Ein le dorenu kol reshut ligroa davar me'asruyot anitzriot shel eretz shel Israel veshel eretz Israel. Asruyot shel Israel shayachot lo le dor echad, ki im le netzach Israel. Min ha'olam ve'ad ha'olam. Yitachen shedorenu dor ha'midbar. אבל לא עלינו המלך לגמור. לא קיבלנו בקבלנות לבנות את בית הלאומי דווקא בימינו. ייתכן שאנחנו רק נניח את היסודות ואת הבניין יקימו הדורות הבאים. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas commencer. Peut-être que c'est pas à nous de réussir la création d'un État, mais c'est à nous de le commencer. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole, je terminerai, juste avant de vous laisser la parole, en vous racontant une anecdote, et je ne sais pas pourquoi je floute. Attendez, voilà, je défloute. Yofi. Je terminerai simplement en disant la chose suivante. J'étais une fois avec un groupe, et ce groupe m'a dit, une des personnes dans le bus m'a posé la question, m'a dit, c'était avant, évidemment, Simchat Torah, c'était il y a quelques années. Il m'a dit, mais non, mais attends, parce qu'on passait par certains villages arabes en voiture, enfin en bus, et on voyait le mur de sécurité, nanana. Et donc quelqu'un me dit, non, mais attends, 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 je comprends que toi tu aimes Eretz Israël, tout ça, mais si on fait la paix, si on dit de manière hypothétique que si on leur donne une partie de la terre d'Israël, Zéhou, c'est la paix officielle. C'est pas une trêve, c'est pas des accords, la paix officielle, la paix, ça marche. T'es pour ou pas? Et il y a une partie du bus qui pensait que j'allais lui tomber dessus et lui dire « Ma putain !» Je lui ai répondu « Ah, c'est une très bonne question. J'ai besoin de prendre conseil. Je dois demander à quelques personnes. Tu m'accordes de faire deux téléphones ?» Il me dit « Bah ouais. » J'ai pris mon téléphone. Bon, je ne l'ai pas vraiment appelé, j'ai fait genre. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai fait genre que j'appelais ma grand-mère. Je lui ai dit, mamie, on me demande si c'est bien, si je peux, si on peut faire la paix, de donner la terre d'Israël aux Arabes, une partie. Et je lui ai dit que ma grand-mère m'avait dit, non, pas du tout, pas du tout. Et après, je dis, je passe un deuxième coup de fil, j'appelle ma petite fille qui n'est pas encore née. Et je l'appelle et je lui demande aussi qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que la terre d'Israël ne m'a pas été donnée à moi. Elle a été donnée à mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et puis elle a été donnée aussi à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Qui je suis moi pour décider de me séparer de la promesse éternelle que Dieu a faite au peuple juif? Bien les amis, voilà comment réussir à résumer la vie, l'œuvre et la Torah de cet homme absolument incroyable. Arabe que personne ne connaît, à Admour Achalutz, un élève du Rav Kook, et surtout un amoureux de la terre d'Israël, et un homme qui était le plus heureux des hommes lorsque, du haut de son cheval, il ressentait faire partie du Tanakh. Arabe Yeshayahu Shapira, à Admour Achalutz, Hazak u Baruch. À vous de jouer, vous pouvez ouvrir les micros.
Première question, Rav de Félicien.
Oui.
Oui, Boker Tov Rav, Mazal Tov pour toute la famille.
A Grosse Schreier.
Ok. Et de quel
Félicia
livre? Oui.
Tu ne m'as pas dit pour ce soir.
Mais si, j'ai répondu, j'arrive.
Ah, tu arrives, oh, c'est bien. Bon, vas-y, pose ta question.
Et non, de quel texte, de quel livre vous citez, qu'est-ce qu'il a, quels sont les
il a écrit plein de choses. Il a écrit plein de choses. Alors okay. Ça, c'est ça qui est fantastique avec lui. Le Rav Shapira, c'est un mec qui nous a laissé pas mal d'écrits.
Ok.
Alors pas de, alors il y a le livre, comme on a dit, le livre Eretz Refetz, dans lequel il fait les citations du Rav Kook sur la grandeur de la terre d'Israël, tout ça. Mais il va écrire aussi pas mal d'autres choses, puisqu'il va écrire Ve'alen uslecha amelacha ligmor. Donc ça, on a cité pas mal de choses dessus. Il écrit aussi un journal qui s'appelle Hazohar, mais pas Hazohar dans le sens la Kabbalah. Et là, ce qui est clair, c'est marche en Eretz Israël. Et puis, il écrira également dans le journal qui avait été mis en place par le Rav Kook, qui s'appelait Anir. Donc, on retrouve pas mal de ses articles là-bas aussi.
Comment expliquez-vous qu'il est si mal connu?
Ben, j'ai envie de te dire, c'est malheureusement pas le seul.
Non, mais ça a l'air d'un homme extraordinaire
Mais c'est un homme
et
extraordinaire.
on n'a jamais entendu parler de lui. C'est vraiment parce qu'il a voulu mettre ensemble les laïcs et les datives. Vous ne croyez pas que c'est ça la raison? C'est que
Je vais vous dire.
c'est.
Je vais vous dire. Il n'y a pas eu. Il y a pas eu vraiment de personnes qui ont dit. Celui-là, il faut le mettre de côté ou un truc comme ça. C'est pas
Non.
qu'il y a eu quelqu'un qui s'est opposé violemment à lui et c'est ça qui a eu raison de sa notoriété. Je pense très sincèrement que j'ai parlé de lui, j'ai parlé de Rabbi Yoel Moshe Salomon, j'ai parlé du Rav Yaakov Meir, j'ai parlé de pas mal de gens dans ces, justement, fin du 19e, début du 20e siècle, pas seulement d'ailleurs dans l'univers de la Kabbalah, mais des rabbins qui vont avoir un rôle fondamental et qui ne vont pas passer à la postérité. Il y a, à mon avis, deux raisons à cela. La première, c'est que plutôt que de s'opposer à quelqu'un, le meilleur moyen de faire en sorte qu'on ne l'étudie pas, c'est de l'ignorer. Ça, c'est la première chose. Et il y a une autre réalité, et ça, c'est une réalité, et c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de le corriger. Il y a une autre réalité qui est que, eh bien, les amis, l'histoire écrit ce qu'elle a envie d'écrire. Et comme on a dit tout à l'heure, l'histoire du sionisme a été écrite par un sioniste, un sionisme, c'est-à-dire laïque. Et donc toutes les figures qui étaient des figures toraniques sionistes, eh bien, n'ont pas été mises en avant, elles n'ont pas été censurées. Parce que tu peux trouver plein de choses si tu cherches un peu sur le Rav Yishayahu Shapira. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas mis énormément en avant. Zénachon, je pense que c'est à nous de faire le tikkun. Zé Avla Shenaasta, parce qu'en plus de ça, les gens après, ils pensent que les rabbins, ils n'étaient pas forcément pro, ils n'étaient pas forcément béades pour ça, alors que ce n'est pas vrai. Il faut simplement voilà, corriger cela aujourd'hui. Et entre parenthèses, je pense que c'est un des moyens de ramener le judaïsme religieux à l'amour de la terre d'Israël. Leur faire comprendre que bah, les sionistes, ce n'était pas que des mecs qui n'avaient pas de kippa. Bien au contraire, il y avait des géants de la Torah qui étaient énormément, énormément béats. Alors, je vois tout de suite ici
Les
une
femmes,
prise
les
de
femmes.
position dans le chat. Les femmes non plus ne sont
Oui,
pas
les
tellement
femmes non
mises en
plus.
avant.
On n'en parle pas, mais il y avait un article sur Madame. Donc, c'était extraordinaire ce Shabbat.
Ah, j'ai pas vu.
Ah, très, très bel article, mais j'avais jamais entendu parler d'elle, encore
Et
une fois.
sur qui? J'ai pas, vous n'avez pas dit sur qui?
Tu racontes de
Ah, la femme du Rav Drukman. Ah oui. Mais encore une fois, là, c'est la femme d'eux.
Ah non, mais elle était en telle, il y a un article sur elle, vraiment
Elle était
passionnant.
extraordinaire. Mais je vais vous dire. Bon, d'abord, n'oublions pas qu'il y a certaines choses qu'on doit remettre dans un contexte historique. La place de la femme au début du XXe siècle n'était
Allez,
pas une place publique. C'était comme ça. On peut le regretter, on peut dire que ce n'était pas bien, on peut dire que l'État d'Israël serait différent aujourd'hui si les femmes avaient été un petit peu plus impliquées dans la création des institutions, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Le fait est que jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les femmes n'ont pas vraiment une place active dans la vie publique, la vie politique, la vie sociétale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des femmes d'exception. Il y en a eu, bien sûr, dans le Chinour, il y en a eu aussi dans des prises de position même politiques. On a parlé très rapidement, on a parlé de Donna Grazia Nassi. Sans elle, il n'y a pas de résurrection possible il y a 400 ans. On pourrait parler évidemment de Sarah Schneur, que sans elle, il n'y a pas la possibilité de créer des écoles juives religieuses pour femmes. On n'étudie pas que la couture. On pourrait parler de la femme du Rav Drukman, on pourrait parler aussi de Nechama Leibovitch. Encore une fois, il y a eu des gens qui ont laissé leur marque, mais c'est vrai qu'au début du XXe siècle et avant le XXe siècle, bah, malasot, le monde il est ce qu'il est et les femmes n'ont pas une place centrale dans
Non,
le
je
monde.
pense qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'on dit trop un dans le couple, parce que Donna Gracia n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait si elle n'avait pas été entourée. Et ce qui est un peu dommage, c'est que, comme elle dit, la femme, non, t'es pas la femme d'eux, t'es la moitié d'eux, donc c'est normal qu'une femme, on va prendre par exemple Golda Meir, elle remercie toujours son mari, parce que sans son mari, elle n'aurait pas pu être Golda Meir.
Enfin, Golda Meir et son mari n'étaient pas vraiment en très très bons termes. On va
Non,
pas
mais
rentrer dans leur
non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on fait un. Si on n'a pas un cassure derrière, devant, c'est ça. C'est comme à l'armée. Il y a pas les
Pardon?
djomniks,
Pardon, vous avez
les.
raison. Vous avez
Donc
complètement
en fait,
raison.
c'est vrai que c'est un peu dommage des fois de mettre en statut qu'un homme, parce que des fois en tant que femme, on se dit bon, c'est pas notre monde. Mais le contraire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le couple. Et c'est peut-être à nous maintenant de dire, regardez, cet homme était là, c'est une famille qui a fait. S'il était avec une femme, faut peut-être dire c'est la famille qui a fait. Bon, après, c'est une façon d'écrire aussi l'histoire un peu nouvelle,
Vous avez raison,
en
vous avez
prenant la
raison.
famille.
Alors, il reste 20 secondes. Il vous reste une dernière question de Meira.
Non, moi d'abord, je m'oppose au fait de chaque fois pousser les femmes en avant. Je ne comprends pas pourquoi ils ont toujours ce complexe de où chercher la
Meira,
femme. Mais moi, je vais dire
je vous coupe, je
que.
suis désolé. Il est 10 h et l'orage
Ah là
circule.
là, dommage, je l'avais
Ah
compris.
là là!
Va envoyer votre question par WhatsApp pour avoir me l'envoyer. Je vous transférerai la réponse. Arab, Shavuatov, Todaraba.
Shalom
Shalom, Bracha, Shavuatov.